Alcoolique anonyme 5e sur RCF Haute-Normandie. Et aujourd'hui, nous enregistrons avant Noël, il sera question des fêtes de Noël et de Nouvel An évidemment, avec au micro Véronique, bonjour.
Oui, bonjour Henri.
Bonjour Véronique, une habituée de l'émission maintenant, qui nous aide bien à la montée. Pierre, bonjour.
Bonjour Henri.
Bonjour Axel.
Bonjour Henri.
L'alcool, oui, avec vous, un sujet nouveau que nous n'avons jamais abordé, c'est la première fois dans cette cinquième. L'alcool et les jeunes, et donc j'ai des jeunes ici qui ont autour de 30 ans par là, non ?
27, oui.
Oui.
Moi, je triche un peu, j'en ai 38.
Ah, d'accord. Mais,
bien le jeune. Mais je suis un jeune alcoolique.
Un jeune alcoolique.
Repenti. Oui.
Merci, Axel. L'alcool et les jeunes. Arrive un jour où un jeune se dit « basta, ça suffit ». Pierre.
Mais pour ma part, ça a été très violent. C'est-à-dire que j'ai commencé à boire à 14 ans, de manière festive, donc le week-end. Et puis, ça s'est amplifié au fur et à mesure. C'est devenu tous les week-ends. Et ensuite, l'alcool est entré dans ma vie en semaine. Je m'en suis servi comme médicament pour pouvoir assumer mes prises de parole en cours, pour paraître ce que je voulais paraître aux yeux des autres, c'est-à-dire fort, bien dans ma peau, etc.
C'était à l'âge d'étudiant, au niveau étudiant hein.
Ça a pris de l'ampleur vraiment au lycée, en seconde, première et deuxième seconde. Donc,
Et c'est à cet âge-là que vous avez réalisé il va falloir faire quelque chose ?
Ah non, pas du
pas
tout.
Pas encore, non.
Pour moi, c'était une autre manière, comme je me sentais très différent des autres, j'avais pas ce recul sur l'alcool qu'on peut avoir maintenant, après 11 ans d'alcoolisme, mais c'était une façon de... C'était mon médicament à moi, c'est comme ça que je fonctionnais.
Pierre, quand vous dites maintenant, après 11 ans d'alcoolisme, ça veut dire quoi ? 11 ans de quoi ? Que j'en suis sorti ?
Ah non.
Non. 11 ans que j'étais dans
l'alcool. 11 ans que j'étais dans l'alcool, oui.
Que j'étais dans l'alcool. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un beau jour, il y a eu un déclic, quoi ?
Il y a eu un gros déclic, oui. J'ai fait une première pancréatite aiguë alcoolique. C'est-à-dire que mon pancréas censé digérer les aliments en sortie d'estomac s'est inflammé.
Et, hôpital
Hôpital, évidemment.
Guérison
Première guérison de 6 mois. Et comme j'avais pas admis que j'étais alcoolique, j'ai rechuté 6 mois après et ça a été puissance 2, puissance 3, ma consommation a été exponentielle ensuite.
Alors, dites-nous le moment magique où il va falloir basculer.
Il va falloir arrêter ?
Oui, de l'autre côté.
À la deuxième pancréatite.
Ouais, d'accord.
Parce que quand on en fait une et qu'on continue à boire, et ben, forcément la deuxième arrive. Et pire, c'est-à-dire que la pancréatite s'est transformée en, en coulée de nécrose, c'est-à-dire que le pancréas s'auto-digérait lui-même.
Bon, voilà, on est dans le processus médical. J'ai envie de me retourner vers Véronique pour dire l'alcool et les jeunes. Enfin, c'est un sujet, quoi. C'est un vrai problème, l'alcool et les jeunes?
Oui, c'est un vrai problème. Je sais que moi, j'ai commencé à utiliser l'alcool comme un médicament pour ma souffrance, mon mal-être, mon mal de vivre très jeune à 20 ans. Ça a mis plus de temps chez moi. J'ai arrêté de boire à 39. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui se trouvent piégés dans l'alcool, beaucoup plus jeunes que moi à mon époque. Alors, nous, on a des chiffres en alcoolique anonyme, on ne tient pas de registre.
Oui, madame Véronique, là, justement, vous m'avez apporté un tableau de répartition par âge. Moi, je vois dans les de 20 à 40 ans, il n'y a pas beaucoup d'alcooliques, apparemment.
Non. Alors, ça s'explique de différentes manières. Hein. C'est la façon dont on a bu tout au long de sa vie.
Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'alcooliques chez les jeunes?
Mais si, il y en a beaucoup. Oui. Mais par contre, admettre aussitôt que ça, c'est un vrai problème. Admettre aussitôt que ça qu'on est piégé par l'alcool, c'est pas évident. C'est pas évident ni pour les médecins ni pour l'entourage de dire ou d'envisager de mettre une croix sur l'alcool et de se sentir différent, malade.
Oui. Malade. Donc, la statistique malade que vous me donnez, c'est la statistique des personnes qui ont reconnu leur situation d'alcoolique,
voilà,
et qui veulent s'en sortir.
La tranche d'âge la plus représentée en alcoolique anonyme ou les plus représentées, c'est au-delà de 30 ans, c'est entre 30 ans et 60 ans. Et effectivement, le pourcentage de moins de 30 ans, il est de 3% chez les alcooliques anonymes. Mais 3% qu'ont admis, je ne peux plus boire une goutte d'alcool, je suis un malade alcoolique et l'alcool n'est plus pour moi. C'est pas une acceptation facile à faire. Donc voilà.
Après le témoignage de Pierre, nous y reviendrons tout à l'heure, Pierre, et puis Véronique, ben vous aussi, Véronique, vous avez été jeune alcoolique aussi.
Oui.
Axel, alors, Axel, que vous est-il arrivé, Axel?
Mon processus de consommation d'alcool a été très lent et très progressif. Et c'est vraiment le piège parce que. Au lycée, il y avait une petite alcoolisation, mais je dirais presque normale. Ce qui n'est pas forcément le terme à utiliser.
Le niveau de votre génération.
Oui, mais bon, bah, effectivement, la consommation d'alcool chez les jeunes est très importante. Elle a été plus importante au-delà du lycée et très progressive. Et c'est ce que je voulais dire, en fait. C'est que ça a commencé par une consommation ponctuelle, surtout les fins de semaine.
Ça faisait du bien. Est-ce qu'il y a eu un moment où ça a commencé à faire mal?
Non, justement. C'était juste un moyen de s'amuser un petit peu plus. Mais c'est progressivement devenu quotidien. Ça a commencé avec un verre de vodka, deux verres de vodka par soir. Et puis finalement, progressivement, ça a fini par être une bouteille, mais sur un temps très long, quoi. Et je me suis enfermé, en fait. J'ai pas eu de problème physique comme Pierre, mais il y a aussi un enfermement psychique qui fait que, enfin, de toute façon, c'est un très bon anesthésiant. Hein. Dans quel sens ça s'est réparti, mais ça tuait mes peurs, mes angoisses, évidemment. Mais par contre, ça les alimentait aussi. Il y a un feedback assez important.
Il y a eu un moment de la prise de conscience, il va falloir s'arrêter.
Il y a eu une prise de conscience, oui, c'est quand j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie. La première, ça va, la deuxième, ça passe beaucoup moins. De toute manière, effectivement, c'est toujours pire dans l'avancement.
La famille, là, comment elle réagissait?
J'avais un avantage, entre guillemets, c'est que j'étais pas en famille et que j'avais un alcoolisme privé, pas festif, justement. Mais par contre, ça a provoqué chez moi un enfermement, un ralentissement de mon activité, de ma sociabilité, qui était catastrophique, parce que je pensais plus que est-ce que j'ai encore assez d'argent pour m'acheter une bouteille.
Vous aviez une activité professionnelle à l'époque?
Oui.
C'est dans quel domaine?
Dans le domaine du spectacle vivant. paradoxalement, cette activité me permettait de quand même baisser la consommation, mais j'en avais besoin quand même parce que au bout d'un moment, on est complètement, le corps est complètement addict. Et quand on a pas sa dose d'alcool, bah on commence à trembler, on sue. Et l'effet de manque aussi. Et ce qui est vraiment pervers avec l'alcool, c'est que quand on est en manque, bah on tombe dans les pommes quoi facilement. Hein. Enfin c'est.
Donc la pratique artistique vous obligeait à continuer d'une certaine façon.
De manière moindre, mais m'obligeait quand même. Et mais par contre, c'était toujours en cachette.
Pierre, je crois que vous avez choisi une chanson là pour cette émission.
Oui.
Dites-nous.
J'ai choisi de diffuser un morceau de Java qui s'appelle Sexe, accordéon et alcool. Et je trouve qu'il correspond bien à cette émission de l'alcool et les jeunes.
On écoute Sexe, accordéon et alcool.
Qui pilla va tirer l'arigot. Donne-moi une bière que je fasse mousser mon ego. J'approche du cosmos cyclique, bientôt le trou noir, le space colique, l'extraterrestre des comptoirs. Mais le compte à rebours, trop nos maîtres, les pulsions du jour. 8-6 en moyenne, je nage le gros lambour. Et la brasserie, latitude 1664, coulé en apnée, ça y est, c'est parti. Rampe de lancement, réacteur, transmutation, j'ai perdu connaissance, normal, c'est la pression. J'ai l'inspi qui se fait ski, qui me traîne comme un whisky. Je l'ai noyé dans le whisky comme Bukowski. Et je dis, bah les masques, bonne ma finesse. Si t'en as marre d'être vivant, fais un virement de vin dans le vent de folie. Luke Sky, un Johnny Walker, nous nous embourbons. Faut colmater le foire à fond. Y'a une fuite dans la vessie spatiale de la NASA. J'ai la nausée, trop de kryptonique, hey, de gin tonic, hey, éjecté du corps. Exit direct vite et mon beat va te mettre en orbite. Ta bière de Mars, attaque martien, un petit verre. Champagne, Dark Val, Star, sabre au laser. Boulawan, Kenobi, passe en cyber, passe sur CD-ROM. Pulvérise l'atmosphère comme Arletty. Boom, zoom, trop plan sur le clown. Un dernier alcool de poire et je tombe dans les pommes. Boom, le lendemain je me réveille la tête entre les jambes. Je rentrais du cosmos mais j'ai gardé le scaphandre. J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille mal luné. Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété. Java, c'est pas de la menthe à l'eau.
Java,
c'est du rock'n'roll.
Java,
c'est le vrai son Parigo. La devise,
sexe, accordéon et alcool.
Java,
c'est pas de la menthe à
l'eau.
C'est du rock'n'roll.
Java,
c'est le vrai son Parigo. La devise,
sexe, accordéon et alcool.
Oui, alors Pierre, j'entends un refrain dans cette chanson. Là, c'est quoi déjà?
C'est Java, c'est pas de la menthe à l'eau. Java, c'est du rock and roll. Donc c'est l'état d'esprit des jeunes de maintenant. L'esprit défonce.
On s'éclate.
Fête
alors,
et défonce. Oui.
Pierre, il y a eu un jour où vous vous êtes dit, c'est bien beau de s'éclater, mais je risque de m'exploser.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Et après ma première pancréatite, donc, où je me considérais toujours pas comme alcoolique, j'ai eu un suivi psychologique et un traitement de pseudo-substitution avec des benzodiazépines, etc. Et
pourquoi pseudo?
Parce que ça n'a pas remplacé ma consommation d'alcool. Et donc j'ai commencé à additionner les produits, fumer de l'herbe en même temps, donc le tranxène, les benzos en plus, la cocaïne souvent.
Alors le moment, Pierre, le moment où ça commence à bien faire et qu'est-ce qui s'est passé?
Mais donc 6 mois après, j'étais reparti dedans et ce qui devait arriva, la deuxième pancréatite et là le diagnostic a été bien plus grave. On m'a
alors
dit,
Pierre, moi j'ai envie d'en sortir. Alors qu'est-ce qui se passe après?
Qu'est-ce qui se passe après? Ben on choisit.
Question de vie ou de mort. Hein, oui.
on, on est face au mur et on se dit soit j'arrête de boire et j'arrête mes conneries, soit je creuse ma tombe.
Racontez.
Ben, la prise de conscience s'est faite à l'hôpital où ce sont des moments les plus horribles de ma vie au niveau douleur et au niveau psychologique.
Qu'est-ce que vous avez fait alors ?
Et grâce à la famille, heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs, je me suis retourné vers plusieurs associations et celle qui m'a convenu le plus, c'est Alcoolique Anonyme.
Il y a eu une première réunion alors ?
Il y a eu une première réunion, oui.
Où on vous avait invité, un ami ?
Qu'on m'avait conseillé à l'hôpital. Et donc, comme je désirais absolument m'en débarrasser de ce problème, j'y suis allé par curiosité d'abord et surtout par envie de partager ma souffrance et de me retrouver face à des gens qui pourraient me comprendre.
Je me retourne vers Axel aussi, hein, évidemment, être dans l'alcool et puis être dans le spectacle vivant, où il faut produire quelque chose, donner le meilleur de soi-même, tout ça. Et l'alcool, vous disiez tout à l'heure, ça aide peut-être à passer le cap, à se donner un peu de pchit, là oui. Qu'est-ce qui s'est passé, que vous avez eu envie d'arrêter ?
Je me suis rendu compte que j'étais devenu totalement incapable de gérer mon boulot. Ce qui fait que en fait à ce moment-là j'étais sur Paris et quand on travaille plus on gagne plus d'argent.
Donc ça arrive.
Donc je suis revenu dans mes pénates à Rouen et finalement j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté ma vie parisienne. J'avais tout à reconstruire sur Rouen.
Avec de l'aide de la famille, pas vraiment.
Bah en fait, je suis revenu vivre en famille.
Oui.
Mais il se trouve que j'ai fait plusieurs fois, comme je l'ai dit, des crises d'épilepsie. Donc, on m'a proposé, fermement conseillé d'ailleurs, de faire une cure de sevrage, ce que j'ai fait. Et à cette occasion, j'ai pu rencontrer effectivement diverses associations, dont celle des AA, et il se trouve qu'un parent connaissait aussi un AA qu'il m'a présenté.
Et, je suppose qu'on se souviendra toujours de sa première réunion, non ?
Oui, et c'est assez impressionnant.
Vous pouvez en parler ?
Oui, bien sûr, c'est très impressionnant, parce qu'en plus je suis timide pour arranger les choses.
Et dans le spectacle quand même, oui.
Oui, mais bon. Je suis derrière en fait, on ne voit pas.
D'accord.
Mais bon, c'est très impressionnant. En plus c'est une des plus grandes réunions qui est sur Rouen, avec quand même pas mal de monde. Mais on est accueillis franchement très amicalement. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de jugement dans les réunions. D'ailleurs, on peut venir même alcoolisé. C'est pas recommandé, mais bon.
C'est important de dire que pour aller en réunion,
Véronique, pardon.
Pour être membre des Alcooliques Anonymes, pour faire partie des Alcooliques Anonymes, la seule condition requise, et je crois que c'est important de le rappeler, c'est un désir d'arrêter de boire. Et toute personne qui a ce désir profond, sincère d'arrêter de boire est bienvenue chez nous. Alors il y a ceux qui vont arrêter au bout de la première réunion, il y a ceux qui vont arrêter et qui vont réussir à arrêter de boire au bout de la deuxième, troisième, et il y a d'autres qui mettront des mois, voire des années. Mais peu importe, ce qui est important, c'est qu'ils trouvent chez nous leur identification de malade alcoolique et le courage de suivre le chemin vers l'abstinence.
Nous écoutons la deuxième chanson que Pierre avait choisie. Pierre, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit de la chanson « Quel dommage de boire de trop » de Rastabigou, qui, quand vous allez l'écouter...
Ça parle.
Bon après-midi.
Alcoolique anonyme 5e sur RCF Haute-Normandie. Oui, Axel, tout à l'heure, vous parliez de cette première réunion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que vous avez fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, en fait, la première réunion, je vais parler de mon expérience personnelle. Hein, ça va être beaucoup plus facile. J'ai écouté pour la première, enfin, je veux dire, à la première réunion. Et il y a une capacité d'écoute qui est très importante, en fait, qui est très, très utile. Parce que, on n'est pas habitué, même surtout en réunion, à écouter l'autre. Et là, il y a une vraie écoute.
Qu'est-ce qui se passe de l'oreille au cœur de chaque, au cœur d'Axel?
Eh ben, on se rend compte que qu'on n'est pas tout seul, que même avec une différence d'âge plus ou moins importante, bah, l'expérience est quasi la même. Enfin, en tout cas, on a quelque chose de vraiment en commun, c'est qu'on est malade alcoolique. Et bon, le fait de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, c'est déjà pas mal.
Vous avez pris la parole?
Non, la première, non. Non.
C'est trop impressionnant.
Bon, mais après, on se rend compte qu'on peut quand même, prendre la parole et que tous les sujets peuvent être abordés. C'est, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de restriction. Il y a toujours, a priori, un thème donné, mais on peut quand même le dévier. Voilà.
Et... Oui, Pierre, tout à l'heure, il y aurait beaucoup à raconter, évidemment. Pierre, tout à l'heure, vous évoquiez la polydépendance. De quoi s'agit-il?
Mais c'est le fait
c'est fréquent, apparemment. Hein.
C'est le fait d'additionner les produits quand on n'a plus vraiment envie de se battre.
L'alcool n'a plus assez de goût, quoi.
Oui, et puis on est dans le... Dans la destruction, on n'a plus aucun projet. C'est la chute libre.
Oui, c'est la chute libre. Oui.
Et donc, oui, alcool, tabac, cannabis, cocaïne, médicaments. Je m'arrêterai là.
Ça s'arrête juste là.
Oui, il y en a eu d'autres. Ça s'arrête juste là. On reste en radio.
Non, mais ça coûte tout ça, non? Ça coûte de l'argent.
Oui, ça coûte de l'argent.
Alors comment on fait?
Par différents stratagèmes.
On fait appel à sa famille ou...
On essaye de se débrouiller tout seul. On fréquente les gens qu'il ne faut pas qu'on fréquenter.
Oui.
Et on trouve toujours moyen de se défoncer très facilement. Surtout dans le monde du spectacle.
Et finalement, qu'est-ce qui est le plus dur à arrêter?
Et finalement, le plus dur à arrêter, c'est vraiment l'alcool.
Il faut commencer par l'alcool.
C'est incroyable, hein, on n'imaginerait pas.
Ouais. Et Pierre, ça fait combien de temps en fait, que vous avez arrêté là? Totalement là, hein?
J'ai arrêté totalement depuis Mais depuis cette deuxième pancréatite, ça fait un an et demi.
Est-ce qu'on peut parler aussi bien Axel que Pierre, dans les quelques minutes qui nous restent, des rapports avec la famille ou avec les copains? Tiens, parlons plutôt des copains.
Ceux qui font la fête.
Oui, ceux qui font la fête.
Ceux qui continuent de faire la fête et qui, pour la plupart, ne sont pas conscients du mauvais chemin qu'ils prennent. Pour certains, je ne fais pas une généralité, mais... Mais pour ma part, les fêtes...
Comment ça va se passer pour Noël, par exemple? Noël, premier de l'an, là?
Pour Noël, je me pose pas... Ça me fait pas peur, parce que ce ne sera pas... Ça restera un repas de famille tout à fait normal, entre guillemets.
Là, on se sent plus sécurisé en famille, là.
Oui, et puis il n'y a pas de consommation excessive pour ma part, dans ma famille.
Mais vous, personnellement, ça sera alcool zéro?
Ce sera alcool zéro.
Alcool zéro, oui. D'accord. Mm-hmm.
Par contre, pour le jour de l'an...
Avec les copains?
Oui.
Ce sera toujours alcool zéro, j'espère.
Ce sera toujours alcool zéro, bien
mais
sûr.
Mais dans le groupe, avec des copains qui, eux, ils seront pas zéro, eux.
Ah ben non, oui. Bien sûr que non. Oui. Parce que jour de l'an dit fiesta. Et mais moi, je pense faire le début de soirée. Et quand je sentirai les gens un peu trop chauds... et qui commenceront à avoir des raisonnements ou des blagues.
Ce sera par ici la sortie?
Ce sera par ici la sortie, et je leur dirai bisous. Et
Axel, ce sera quoi, les fêtes?
Les fêtes,
les copains, l'alcool?
Comme je vous ai dit, moi, j'avais un alcoolisme solitaire, ce qui fait que j'ai jamais vraiment eu peur de sortir. J'ai réessayé récemment de sortir justement dans des bars et ça me pose aucun problème. C'est moi qui me fais peur en fait. C'est quand je me retrouve seul que je suis le plus en danger.
Dans un bar avec les copains, vous n'êtes pas tenté?
Non.
C'est chacun est unique.
Curieuse, hein, mais mais c'est ma seule. Mon intimité qui me fait peur. Donc, j'ai pas trop de crainte par rapport aux effets festifs. Mais effectivement, une fois qu'on a arrêté de boire, quand on constate que les autres sont bourrés, ça peut devenir assez ennuyeux, quoi. Et encore, c'est un euphémisme. On sent en décalage, quand même, vis-à-vis de ces gens qui, a priori, n'ont pas de problème de maladie alcoolique. Quoique ça leur arrive, ou apparemment, oui. Mais enfin bon, il y a des gens qui arrivent très bien à se bourrer la tronche et puis
ça ne se voit pas,
ne pas être dépendant plus que ça. Mais bon, moi je suis malade alcoolique, donc le premier verre est le plus terrible.
Donc le combat
continue. Il est constant.
Le combat est constant, le combat continue. Véronique, vous vouliez ajouter quelques informations?
Oui, je voudrais juste dire que pour se libérer de l'alcool, il faut pouvoir en parler. Et que pour ça, en Alcoolique Anonyme, on a les réunions et les groupes, bien entendu. Il y en a une vingtaine en Haute-Normandie. Il y a aussi une permanence téléphonique 24 heures sur 24 qui est tenue par des membres Alcoolique Anonyme. Donc quand on téléphone, on tombe sur un membre Alcoolique Anonyme abstinent qui peut venir en aide soit à la famille et donner des adresses, soit à l'alcoolique lui-même. Et ce numéro est 0820. Écoute, mais ça fait 32 68 83. 0820 32 68 83. Nous avons un site internet aussi, et ce site est www.alcoolique-anonyme.fr, sur lequel on peut trouver tous les groupes et les réunions qui se tiennent en France.
Voilà. Pour conclure cette Alcoolique Anonyme 5e, j'ai envie de vous demander à chacun de vous, qu'est-ce qu'on se souhaite pour les fêtes, d'un mot?
Beaucoup d'amour, et puis je pense à ceux qui souffrent encore, et j'espère que beaucoup entendront ce message.
Pierre?
Mais moi, je vais continuer sur ma lancée.
La bonne lancée.
La bonne lancée, et les projets qui sont revenus depuis que j'ai arrêté.
Les projets, ouais. Les projets. Je crois que c'est une belle conclusion. Axel?
Moi, du bonheur, un retour à la vie, qu'elle soit sociale, amoureuse, amicale. Voilà.
Merci Axel, merci Pierre, merci Véronique.
Merci beaucoup.
À une prochaine. Et puis nous souhaitons. Enfin, pas bonne fête à tout le monde parce que l'émission passera après les fêtes. Voilà. Merci, au revoir.